séquence pour comprendre et débattre avec Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Alors aujourd'hui, quatrième émission sur le thème démocratie et capitalisme. Donc dans la séquence précédente, vous êtes revenu un peu sur les avancées démocratiques en France depuis 1789. Et puis la semaine dernière, vous avez notamment évoqué l'équilibre qui s'est installé en France, donc dans la période d'après-guerre, équilibre entre, donc, d'après vous, aspiration populaire d'un côté et puis un capitalisme qui se rallie à la démocratie. Et puis la semaine dernière, vous avez donc parlé d'une année tournant qui est l'année 73. Alors en quoi cette année 1973 est une année tournant dans le rapport démocratie-capitalisme ?
Oui, effectivement, j'avais terminé sur cette année 1973. Au niveau du capitalisme, son objectif, c'est récupérer du profit. Et ce qui va se passer en 1973, ça va être le premier choc pétrolier. Une augmentation considérable du prix du pétrole qui fait qu'au niveau des entreprises, les marges, les capacités à faire du profit vont diminuer. Et par rapport à ça, on va avoir de la part du capitaliste de dire, attendez, le contrat, nous on veut bien fournir du travail et fournir des revenus aux travailleurs si on fait du profit. Mais si on ne fait plus du profit, eh ben, on ne se sent plus engagé par ce contrat social. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la part du capitaliste l'idée de dire, mais nous, faire fonctionner l'économie, si ça ne nous permet pas d'avoir du profit, ça ne nous intéresse pas. 1973, c'est la même année, c'est une date symbolique, parce que ça aurait pu avoir lieu l'année d'avant, l'année d'après, c'est à cette époque-là que les choses se jouent. Il va y avoir un conflit important à Besançon, le conflit LIP, qui a marqué un tournant dans l'histoire du mouvement ouvrier. Depuis après-guerre, il y avait un accord, ce que j'ai expliqué la dernière fois, où c'était au patron de faire fonctionner les entreprises, aux ouvriers de travailler, on leur donnait un salaire, et en contrepartie de ce salaire et de l'élévation de leur niveau de vie, ils se taisaient sur la production. Et le conflit LIP, comment il se dégage? Comment il va apparaître? Un patron d'une entreprise d'horlogerie décide de fermer son entreprise qui fabriquait des montres. Et à ce moment-là, les ouvriers disent, il n'en est pas question. Ils vont occuper l'usine et se mettre à produire les montres, à les vendre, et à continuer d'avoir leur salaire. Le slogan, c'était « on produit, on vend, on se paye ». À l'occasion de ce conflit, de la part des salariés, remise en cause du contrat. Dans l'année 1973, deuxième changement dans ce processus, deuxième attaque à ce compromis social. La troisième attaque à ce compromis social en 1973 concerne plus directement le sujet qui nous intéresse, la démocratie. Le 11 septembre 1973. Le 11 septembre, ça évoque autre chose pour l'instant. Mais c'est le 11 septembre 1973 qu'a lieu un coup d'État au Chili. Alors là aussi, nouveau, remise en cause du compromis par rapport à la démocratie. Qu'est-ce qui s'était passé au Chili? Au Chili, quelques années avant, Salvador Allende était arrivé au pouvoir par les élections. Salvador Allende était socialiste et met en place au Chili une politique socialiste, avec remise en cause de la propriété du capital, avec remise en cause de redistribution de terres, il y a une véritable politique socialiste. Le capitalisme, dans le rapport des forces électorales, va chercher à faire capoter la politique économique d'Allende et dire aux prochaines élections, on reprend le pouvoir. Prochaines élections, les urnes confirment Allende au pouvoir, et même lui donne davantage de force. Par rapport à ça, par rapport à ce changement qui risquait de remettre en cause le capitalisme, par la voie des urnes, on va avoir l'intervention militaire où Pinochet prend le pouvoir par un coup d'État, soutenu par et financé par les États-Unis. Celui qui tire les ficelles là derrière, c'est Henry Kissinger, secrétaire d'État de Nixon, qui dira à Pinochet, aux États-Unis, vous le savez, nous sommes de tout cœur avec vous. C'est une citation de Kissinger. Les États-Unis ne sont pas contre la dictature si la dictature permet de maintenir en place le système capitaliste. Même au contraire, ils organisent ça. Ils organisent ce coup d'État au Chili devant le risque que les urnes remettent en cause le capitalisme. Voilà un petit peu cette année charnière 1973. Alors une année, je dis c'est symbolique, parce que ce n'est pas en une année qu'un système change. C'est sur une dizaine d'années, c'est sur une génération qu'un système change. Mais l'année 73, il y a trois événements qui vont tous dans le sens d'une remise en cause de ce contrat social qui avait été accepté pendant les Trente Glorieuses.
73, c'est aussi bon, donc un peu la fin des Trente Glorieuses et puis l'apparition du chômage de masse. Est-ce que ça rentre en compte aussi?
Alors,
dans ce
On peut pas dire que c'est 73 le début du chômage de masse. Le chômage de masse va être la conséquence du désengagement des entreprises, du capitalisme par rapport à l'emploi. Le modèle keynésien, le modèle du capitalisme d'après-guerre, avait pour but de mettre en priorité le problème de l'emploi. Parce que s'il n'y avait plus d'emploi, il y avait le risque d'une révolution sociale. Et c'est pour ça que le capitalisme avait adopté le modèle keynésien. En 73, il remet en cause le modèle keynésien. Et ça aura comme conséquence le chômage. C'est parce que le capitaliste remet en cause le modèle keynésien, du fait que lui trouve qu'il ne fait pas assez de profit, que le chômage va se développer.
Alors, donc, vous parlez d'une année 73 charnière. Et comment évolue la situation, donc le rapport toujours hein, démocratie-capitalisme après 73?
Alors donc, après 73, la question pour le capitalisme, c'est comment faire en sorte pour augmenter les sources de profit privés qui ont eu tendance à diminuer du fait de l'augmentation du prix du pétrole. Comment faire en sorte pour supprimer tous les obstacles au profit maximum? Et la réponse qui va germer et qui va se mettre en place progressivement, ça va être la mondialisation libérale. La mondialisation libérale, c'est la manière dont le capitalisme a cherché à régler cette diminution de sa perte du profit. Et on va retrouver un petit peu tous ces éléments-là qui progressivement vont se théoriser au cours des années, à la fin des années 70, des années 80. C'est ce qu'on va appeler le consensus de Washington, qui vont se mettre en œuvre à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Europe. Ça va être ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne. Et progressivement va se mettre en place la mondialisation libérale.
Ce que vous n'avez peut-être pas évoqué jusqu'à présent, c'est qu'en 73, on est aussi dans un contexte de guerre froide aussi, quoi.
On ne peut pas dire qu'en 73, on est encore dans la guerre froide. On n'est plus dans la période de guerre froide. Par contre, en 73, on est toujours dans le compromis de Yalta. C'est-à-dire qu'après-guerre, les grandes puissances se répartissent le monde en deux camps. Il y a le capitalisme à l'ouest de l'Europe et le capitalisme à l'est de l'Europe. Et un des atouts de la démocratie, une des choses que le capitalisme était obligé de tenir la démocratie, parce que pour lui, c'était un élément de tenir la classe ouvrière du côté du capitalisme. En gros, le gros argument, le capitalisme, c'est la liberté. Vous avez la possibilité de voter, vous avez la possibilité de vous exprimer. Si vous changez de camp, du côté du communisme, c'est le totalitarisme, il n'y a pas le droit de vote et vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. Or, il va y avoir un autre phénomène qui va se produire. Alors, cette fois, 1989, c'est la chute du mur de Berlin et, avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement des pays de l'Est. C'est-à-dire que le capitalisme n'a plus besoin de la démocratie pour tenir une partie de la classe ouvrière qui pourrait être tentée pour un système social différent.
Alors, qu'est-ce que ça va changer à partir de ça?
Alors, dans le nouveau modèle, dans le nouveau modèle qui est en train de s'inventer, au cours des années 80, qui va se développer dans les années 90 et qui va devenir le modèle dominant, on va avoir progressivement la démocratie qui va évoluer. On continue d'avoir des élections libres, on continue d'élire nos représentants, mais progressivement, les personnes que l'on élit vont avoir un rôle de moins en moins important sur les décisions qui concernent directement les citoyens. Je prends un exemple, et je vais prendre un certain nombre d'exemples qu'on a eu l'occasion de voir. Lorsqu'on a parlé de la mondialisation, on a parlé, il y a eu une émission entière sur l'Organisation mondiale du commerce et sur la dernière conférence qui a eu lieu à Hong Kong. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, les responsables, ceux qui conduisaient les négociations, on a vu, le président de l'OMC, c'était Pascal Lamy. Pascal Lamy ne passe jamais devant les électeurs. Pour l'Union européenne, le commissaire européen qui représentait l'ensemble des pays d'Europe, c'est Mandelson. Mandelson n'a aucun compte à rendre aux électeurs. On continue d'élire des gens, mais les décisions qui se prennent à l'échelle mondiale échappent aux gens qui nous ont élus. Ils ont délégué à des technocrates le soin de prendre les décisions qui seraient impopulaires. Au niveau de l'Europe, 1992, la mise en place de Maastricht et de la monnaie unique. Concernant la monnaie, qui est un outil de politique économique, que dit le traité de Maastricht ? La Banque centrale européenne est complètement indépendante. Et les chefs d'État et les États n'ont pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Et on voit une équipe de technocrates, de banquiers, qui se mettent à gérer la Banque centrale européenne, qui se voit comme seule mission de veiller à la mise en place de la libéralisation, puisqu'on lui demande de veiller essentiellement à ce que le taux de la monnaie soit stable, à la stabilité du taux de monnaie. C'est-à-dire qu'il lui interdit toute politique qui ne serait pas une politique libérale. Au niveau national, on va retrouver la même chose. Je pense à cette mesure. La dernière fois que le livret de caisse d'épargne, celui que la majorité, que beaucoup de gens ont, livret de caisse d'épargne, c'était Raffarin, Premier ministre, a baissé le taux du livret A, ce qui est une mesure particulièrement impopulaire. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir fait ça? Il a dit, ce sera la dernière fois que je serai amené à le faire. Il a fait en sorte que ce soit une commission technique qui détermine quand est-ce qu'on monterait ou quand est-ce qu'on baisserait le livret A. Ce qui fait que l'élu, le jour où on diminue le livret A, dira, mais moi je ne suis pas concerné. C'est des mesures techniques, c'est les techniciens qui l'ont pris. Ce n'est pas les politiques. Et même au niveau des élus locaux, un élu local dans une collectivité qui déciderait de vouloir privilégier les entreprises locales pour donner du travail aux habitants, se voit dans l'obligation, pour mettre en œuvre les règles de l'Organisation mondiale du commerce, de faire un appel d'offres, et l'entrepreneur local peut être mis en concurrence avec une transnationale qui décide de venir s'installer là. Par rapport à ça, la transnationale se trouve dans un rapport de force très très différent avec la petite entreprise. Elle a toutes les chances d'avoir le marché si ça l'intéresse. Et l'élu local qui voudrait maintenir la petite entreprise voit l'Organisation mondiale du commerce disant « Mais vous n'avez pas le droit de faire cette politique-là ». Voyez bien comment progressivement, le capitalisme ne remet pas en cause les élections. Ce qui met en cause, c'est la possibilité pour les élus de décider de la politique en remettant à des techniciens le soin de développer une politique unique.
Vous nous dites que donc le politique a de moins en moins de pouvoir réel. Et qu'en est-il du citoyen par rapport à ses droits ?
Alors, concernant les droits du citoyen, on a bien vu, la démocratie, ça fonctionne à la fois sur la possibilité d'aller voter régulièrement et d'élire des représentants, et d'autre part, sur les droits du citoyen, qui est le droit de liberté d'expression, le droit de manifester, le droit de grève. Par rapport à ce deuxième pied, le droit de grève, on a vu que c'était relativement récent, qu'il a été inscrit dans la Constitution française en 1945, c'est-à-dire à la Libération. C'est seulement, il faut attendre la Libération pour que dans la Constitution, le droit de grève soit inscrit. Alors, concernant le droit de grève, qui a un droit, progressivement, on va commencer à avoir une remise en cause qui va être, mais qui c'est qui peut faire grève ? c'est uniquement ceux qui ont des statuts relativement protégés. Le salarié de la petite entreprise, il n'a pas la possibilité de faire grève. Et ce qui est droit de grève est de plus en plus présenté comme un privilège de salarié qui serait protégé. Vous voyez comment, progressivement, d'une manière insidieuse, on laisse entendre que le droit de grève, ce n'est pas un droit, mais ce sera un privilège que seule une élite aurait droit. Et que ce n'est pas normal de laisser des privilèges en démocratie. Vous voyez comment, progressivement, on est en train de remettre ça en cause. Le droit de grève, d'accord, mais à condition que ça ne gêne pas. Et c'est toute la pression sur le service minimum. On a le droit de faire grève, mais à condition que tout continue de fonctionner sans que ça remette en cause les fonctionnements ordinaires. Le droit d'expression n'est pas remis en cause. On est toujours en démocratie et on a le droit d'expression. Mais regardez, ici on est bien placé dans une radio locale, les attaques pour les financements des radios locales. Vous avez le droit d'expression. Comment ça va fonctionner? Eh bien, ça sera le marché qui va le régler. Et on en arrive presque à, après 1789, on a eu le vote censitaire, c'est-à-dire on pouvait voter si on avait de l'argent. Et on en arriverait à l'expression censitaire. On pourrait s'exprimer si on avait les moyens de se payer l'expression. Vous voyez que, comment progressivement le capitalisme est en train de reprendre ses grands acquis de 150 ans de lutte ouvrière.
Paul Masson, merci. On va peut-être annoncer le programme de la semaine prochaine dans la séquence pour comprendre et débattre.
Alors la semaine prochaine, on essaiera de regarder, toujours en lien avec la démocratie, le problème de l'information.
On se retrouve donc la semaine prochaine dans Info 30. On va à nouveau signaler aux auditeurs que cette séquence est disponible à l'écoute donc sur le www.radiopfm.com. Et puis on va rappeler les coordonnées de la radio: 03 21 50 99 99. Et puis l'adresse mail pfm@radiopfm.com.